Alors bonsoir, c'est mon très grand plaisir de faire cette introduction de Raquel Varela. Je suis un peu émue parce que c'était magnifique. Je ne sais pas s'ils sont partis, les musiciens, mais c'était vraiment très très beau. C'est quand on entend des voix comme celle-là, voilà. Donc voilà, je suis désolée, je suis un peu émue. Donc je vais présenter Raquel, que j'ai le grand honneur d'accompagner. Donc Raquel est docteur en histoire politique, spécialiste de la révolution des œillets. Elle travaille sur l'histoire des mouvements sociaux, sur l'histoire du mouvement ouvrier, enfin des mouvements ouvriers. Et elle est chercheuse à l'Institut d'histoire contemporaine de l'Université Nova de Lisbonne, où elle coordonne des recherches sur le travail et les conflits sociaux. Donc elle vient ici nous présenter son dernier livre, son avant-dernier livre, son dernier livre. Je ne sais pas, elle est très prolixe. Donc son avant-dernier, livre, donc « Un peuple en révolution, le Portugal, 1974-1975, c'est à toi ».
Merci beaucoup Stéphanie. Je ne parle pas français vraiment. Je ne vais jamais apprendre le français, si je suis une autodidacte. Donc, j'ai créé beaucoup de mots qui n'existent pas. Si vous ne pas comprendre, vous me direz, oh, quelqu'un ici qui parle français, portugais, m'aide, s'il vous plaît. Je pense que ça, c'est meilleur comme ça, parce que la traduction, c'est quelque chose qui fait comme, une difficulté pour le débat entre nous. C'est on utilisait la traduction, donc j'ai créé un petit peu. Donc, la première chose, c'est faire beaucoup de remercier à vous de l'association 25 d'avril, la Solidarité, qui m'a invité pour venir à Suisse et parler de cet livre et surtout de la Révolution portugaise. C'est quelque chose qu'il faut qu'on débatte aujourd'hui vraiment, seulement comme quelque chose dans le passé. Mais qu'est-ce qu'il y a passé dans le passé qui peut nous aider à cet moment de crise globale du capital et évidemment de crise des organisations, des mouvements des travailleurs dans le monde. Stéphanie, que j'avais connue dans le travail, c'est un plaisir
to meet you again.
Excusez-moi, j'utilisais un petit peu l'anglais quand je ne sais pas les mots en français. C'est vrai que j'ai écrit beaucoup. J'avais écrit 30 livres. Mes moitiés sont des coordinations, des livres collectifs, parce que je fais beaucoup de travail dans mon université, que c'est un collectif de chercheurs. Mais cet livre, c'est mon livre. J'avais deux enfants et je dis toujours que j'avais trois enfants. Mon trois enfants, c'est les livres de l'histoire du peuple dans la Révolution portugaise, parce que c'est le plus important que j'avais écrit dans ma vie. Plus important que tous les autres livres. Et pourquoi? Parce que j'étais étudiée dans ma doctorat l'histoire du Parti communiste pendant la Révolution portugaise et j'avais entendu qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre pour comprendre la Révolution. Ce n'est pas seulement les partis, mais qu'est-ce qu'il y a passé avec la auto-organisation de la classe ouvrière et des travailleurs aussi intellectuels. La classe ouvrière, j'utilise in un sens général, les gens qui vivent de son propre salaire et les formes dont il y a organisé et comme il y a développé une conscience exceptionnelle. Donc, quand nous étudions la Révolution, j'avais étudié la Révolution portugaise, parce que je suis, comme on dit, in love, apaixonada, c'est
amoureuse
pour le concept des transformations en histoire. Donc, on peut étudier des exotours, on peut étudier quelque chose qui jamais change ou qui change très difficilement, mais je ne veux pas étudier ça. Je veux étudier quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire du XXe siècle et du XIXe siècle. Il y a beaucoup de révolutions dans le XXe siècle. Presque tous les 5 années, il y a une révolution dans le XXe siècle. Les gens pensent que c'est quelque chose de démodé, ce n'est pas vrai. Donc, nous avons la première révolution Russie, la semaine tragique de Barcelona depuis, la révolution Russie, la révolution hungarienne, la révolution allemande, la révolution espagnole, la révolution mexicaine. Bon, et je peux dire beaucoup, presque toutes les années, si on fait l'histoire de la révolution. Surtout depuis de la Seconde Guerre mondiale, depuis les révolutions anticoloniales. Mais étudier la révolution, il y a beaucoup de révolutions, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce que les gens se transforment quand ils transforment les pays. Donc les Portugaises, c'est le Cavaquistan, comme vous connaissez bien, non? C'est un pays très retardé, on dit ça, très retardé. Les gens, 30% d'analphabétisme, et les gens croient vraiment, la majorité de les gens qui sont politiques, c'est le travail, ça c'est une meute de Salazar, la politique c'est le travail. Je ne discute pas la politique parce que ma politique c'est le travail. Vous pouvez reconnaître ça dans beaucoup des immigrés parce que c'est quelque chose de culturel profondément
ancré.
Entré dans les gens. La politique, c'est quelque chose de conflictueuse, chaotique. Ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est travailler. Ça, c'est évidemment parfait pour un pays central comme Suisse. Qu'il a sept travailleurs comme main d'œuvre et il peut avoir des agitateurs ou comme l'Italien dans les États-Unis au XXe siècle, au début du XXe siècle, ou les Portugaises radicales, anarchistes au Brésil au début du XXe siècle. Ou des exilés organisés en Suisse, en France, etc. Mais ce n'est pas la majorité. La majorité du Portugal, au 24 avril de 1964, ces gens qui ont peur, ils déconnaient la politique, ils sont dépolitisés et... Et ils sont en une situation dramatique parce qu'il y a une guerre coloniale terrible. Donc, Portugal, vous avez une idée, il a mobilisé pour la guerre coloniale entre 1961 et 1974 1 million de jeunes hommes. Entre un pays de 10 millions de personnes, en 1974, 150 000 jeunes hommes. Il y a seulement une société dans le monde plus militarisée que la société portugaise à cette date, qui c'est Israël. Donc, le premier problème et le problème central de la société portugaise, c'est la guerre coloniale. La guerre coloniale, c'est aussi les révolutions anticoloniales lidérées par Amílcar Cabral et les autres leaders du mouvement de libération. Parce que ce n'est pas seulement la lutte armée qu'ils ont fait une révolution anticoloniale parce que ce n'est pas seulement une partie militaire comme PAIGC ou d'autres, mais c'est profondément soutenu dans les bases sociales des paysans et travail forcé dans les colonies. Le second problème, c'est évidemment la pauvreté. Donc, nous avons le plus grande morte maternelle des enfants, c'est une situation absolument catastrophique qui a fait que 1,5 million de gens ont laissé son pays pour travailler dans notre pays pour vivre. Parce que c'est impossible depuis la mécanisation agricole et avec avec la pleine urbanisation de la société portugaise, que c'est seulement à 1960, seulement jusqu'à 1960, la majorité du peuple sont dans petits villages ruraux. C'est pas une société urbanisée pleinement. Ça, c'est évidemment le second problème. Et le troisième problème, peut-être le premier problème, je ne fais pas une hiérarchie de ce problème, c'est la dictature. Nous parlons d'une dictature analogue au fascisme, bonapartisme, que c'est une dictature qui travaille avec une répression dramatique sur les cadres dirigeants, syndicaux et politiques, la totale démobilisation politique du pays et une société coloniale comme le fascisme, j'ai utilisé autre concept, mais on peut parler sur ça, dans les colonies. Donc, la police politique, par exemple, dans la colonie portugaise, il acte comme les services d'intelligence les militaires. C'est quelque chose, bon, dans la guerre coloniale portugaise, 9 000 hommes sont tués, 150 000 il est malade psychologique et malade physique, et 100 000 de l'autre là, à Mozambique, Angola, etc., sont mortes avec une calculation de l'histoire militaire nord-américaine. Donc c'est une dévastation. Ça, c'est la situation. Mais cette jeune, et ils sont mobilisés avec la urbanisation. Les ouvrières sont allées à Oporto, Lisbonne et Setúbal. Et la dictature, il a beaucoup de problèmes pour contrôler les mouvements ouvriers en 1969, 1970. Mais la majorité de la société, c'est encore pas mobilisé, ou faire des grèves, ou des manifestations, etc., etc. Et une surprise, à 25 avril 1974, tout le monde est politisé. Ça, c'est que je veux dire, que c'est une révolution. Et les mouvements des forces armées a fait un coup d'État, il a fait des communiqués, dire à Jean, il faut que vous restiez chez vous, parce que le contraire, vous êtes en prison, vous ne pouvez pas aller à la rue. Et les gens sont tous allés à la rue. Tous allés à la rue. Ils dirent pour détruire le fascisme. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas parler bien la parole fascisme. Parce que, qu'est-ce que je dis avec ça? Ce n'est pas seulement les militantes. Tout le monde, les gens pauvres, les gens démobilisés, dépolitisés, qui vivent dans le bidonville, vraiment pauvres. On peut aller parce que la révolution portugaise, ça c'est quelque chose que nous avons un petit meilleur que la révolution aussi, que notre révolution c'est absolument filmé. Donc nous avons les archives de la télévision publique qui est aussi occupée par les travailleurs, qui a mille des heures de télévision qui filmaient tout. On peut regarder les gens sans dents, comment on dit ça?
Sans dents. Sans dents.
Sans dents. Absolument pauvres. Ils ne peuvent pas parler portugais parce qu'ils sont analphabètes. Ils ne peuvent pas parler. Ils disent, nous sommes acquis pour détruire la dictature. Nous sommes acquis parce que nous avons la liberté. Ils font la guerre coloniale. Donc ça, c'est le moment. J'ai fait dans ma vie de recherche et avec mes élèves et tout, sorte de interview à les gens qui ont fait la révolution portugaise et maintenant sont des gauches, sont des droites, sont des moralisés, sont tout ce que vous pouvez imaginer. Mais tout a cette phrase. Ça, c'est le plus important jour de ma vie. Ça, c'est le jour de ma vie que je suis plus happy.
Et plus heureux.
Plus heureux. Et si vous voulez faire une photo de la révolution portugaise, pas seulement le 25 avril, mais tous les deux années, c'est difficile d'une photo que les gens ne peuvent pas sourire. C'est très difficile. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens, par exemple, aujourd'hui, si vous allez à le métro de Portugal, la rue, les gens, c'est tout démoralisé, très réprimé. 25% de la population portugaise a une médecine pour dormir ou pour réveiller. Donc, c'est une société des zombies. Et la situation, les gens, maintenant, ils ont des problèmes, c'est vrai. Très grand problème, mais en 1964, ils sont vraiment pauvres, vraiment problématiques, mais les gens ont d'espoir. Ça, c'est totalement différent d'aujourd'hui. C'est ça, un problème objectif. Il a un problème objectif, vraiment, si tu n'as pas de dents pour manger, etc. Si tu n'as pas d'habitation. Mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a passé pendant 2 années, qu'est-ce qu'il y a passé dans une révolution, il faut qu'on ne pas confonde les révolutions avec les contre-révolutions. Les révolutions sont moments heureux, ce moment que les gens, elles se retrouvent, part d'une collective, de la solidarité, de la transformation, de la créativité. Ça, c'est ce qu'il a passé au Portugal pendant cette année. Donc, l'importante condition pour expliquer cette révolution, c'est une des plus importantes révolutions de tout le XXe siècle, parce que c'est une révolution de grandes contradictions et plus tardes. Donc, ce n'est pas une révolution agraire, donc il y a une révolution agraire dans l'Alentejo. La majorité, c'est une révolution industrielle et une révolution des services publics. Donc, les médecins, ils font la révolution. Et les enseignants, ils font la révolution. Les enseignants, ils sont occupés de l'école privée et de l'église et qu'ils vont devenir l'école publique portugaise. Aujourd'hui, si vous voulez à Portugal, mon fils, il va au lycée public de Oeiras, lycée public de Setúbal. Cette Oeiras, non, c'est pas vrai, mais c'est pas un bon exemple parce que c'est un lycée de l'État nouveau. Mais une grande partie de l'école sont occupées par les enseignants et autogestionnées par une gestion démocratique. Aussi les santé, les l'hôpital privé, qui sont la majorité de tous les hôpitaux au Portugal, ils sont occupés par les médecins, qu'ils ont demandé pour lui-même un salaire public, pas faire les cliniques privées encore, mais un salaire public. Et quand ils ont défendu son salaire public, ils ont défendu un système national de santé. Donc, la classe ouvrière, et la classe travailleur ou la classe salariée, il est à devenir une classe universelle. Comprendre qu'est-ce que je dis? Ils ne sont pas luttés pour son travail, mais pour quand ils luttent pour son travail, ils luttent pour une idée de pays. Ça, c'est le concept de universal que je veux débattre avec vous. C'est un, et ça, c'est la même chose avec tout que vous pouvez imaginer. Parce qu'au 25 avril, il a né la notion qui fait la révolution. Maintenant, une révolution, c'est ça. C'est pourquoi ce n'est pas seulement un coup d'État. Un coup d'État, il a beaucoup. La révolution, il a une situation qui l'État est en crise. et les jeunes ne veulent pas être gouvernés comme ils l'ont dernière. C'est une phrase de Lénine que je ne peux pas dire en français, mais les gouvernements, os de cima já não podem governar como governavam e os de baixo já não querem ser governados como eram. Como on dit ça?
Ceux d'en haut ne peuvent pas governer comme ils veulent, puis ceux d'en bas ne veulent pas non plus être governés comme avant.
Comme avant.
Ouais. Et qu'est-ce que c'est dire empiriquement quand on fait les études? L'État est en crise profonde parce que les forces armées, que c'est le central d'État, est divisé avec le mouvement des forces armées. L'État est en crise profonde parce qu'il y a une crise économique internationale, la crise de l'oil, s'appelle, c'est pas, enfin, on dit la crise de l'oil, mais c'est une crise capitaliste de l'accumulation de la finue de l'accumulation de depuis la guerre. Et ils ont décapitalisé les entreprises et les travailleurs ont occupé cette entreprise. Par exemple, nous avons plus de 100 entreprises occupées par les travailleurs en process de autogestion pendant la Révolution portugaise. Donc, le problème, ce n'est pas une crise économique parce que ça, c'est une condition de la Révolution. Marx a expliqué ça très bien. Je pense que je suis d'accord quand nous étudions la Révolution pendant le XXe siècle. Toutes les révolutions... Il se passe quand il y a une crise économique. Parce que la crise économique provoque une crise d'État. Regarde le Brexit, par exemple. C'est une classique impact dans les institutions d'une crise économique. Mais ça, c'est pas suffisant pour faire une révolution. Il faut que les masses veulent avoir une participation politique massive. Donc, qu'est-ce que nous avons en 2008? Nous avons une crise politique, une crise économique qui n'a pas devenir une crise politique parce qu'il n'y a pas une réaction révolutionnaire des travailleurs contre les mesures contre-cycliques. Donc, intensification du travail, décapitalisation des entreprises, chômage, etc., etc. Qu'est-ce que nous avons au Portugal en 1974? Nous avons une crise économique qui a devenu une crise politique parce que l'État est en crise, les institutions ne fonctionnent pas comme mode de contention et les travailleurs sont offensivement, pas la défensive, mais offensive. Il dit, si tu décapites l'entreprise, j'ai occupé l'entreprise pour il pas au chômage. Ça, c'est un process de radicalisation vertigineuse des processus révolutionnaires portugais parce que c'est une combinaison de crise politique avec crise économique. Et il y a une autre chose, à ma opinion, j'avais développé ça dans le livre avec, je pense, une sustentation factuelle, c'est que quand... Il y a une dictature. La dictature n'a pas permis les unions et les partis politiques des travailleurs libres. Donc, il y a le 25 avril, les gens sont allés à la rue pour dire fin à la guerre coloniale, démocratie. Ça, c'est le premier mot, c'est démocratique et contre la guerre coloniale. Mais ils ne sont pas allés à la rue. Ça c'est vrai dans quelques places. La majorité, ils sont allés à son travail, parce qu'ils sont travailleurs. Ça, c'est très intéressant. Ils sont allés à son travail. Et quand il arrive dans son travail, et quand je dis à son travail, je dis toutes les usines, les conservatoires de musique, les écoles, les hôpitaux, les gens sont allés au 25, 26 et 27 avril à son travail. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a pas des unions, oui?
Syndicats.
Et il n'y a pas de parti politique. Donc, il n'y a pas véhicule de contention entre les gens aux démocraties directes et l'État capitaliste, l'État bourgeois. L'État est aussi en crise. Et qu'est-ce que font les gens? Il y a petite syndicat clandestine et organisation qui immédiatement a un rôle, mais c'est la minorité. La majorité n'existe pas. Donc les gens sont allés à son travail, ils disent qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on fait une communiqué, dire fin à la guerre coloniale et on veut démocratie. Mais ils sont travailleurs, donc il dit ah, et maintenant, non, nous avons du travail égal pour salaire égal. Nous n'avons pas travaillé au samedi et au dimanche. Nous avons des vacations, nous n'avons pas de vacations. Il faut que si nous travaillons pour la nuit, il faut payer le double. Donc ça, c'est le processus de transformation d'une révolution démocratique dans une révolution sociale, parce que les sujets sont travailleurs. Et ça, c'est aussi un processus qui existe à la naissance absolument spontanée, de la soviétisation qui fait qu'on parle d'une révolution. Ça, c'est le double pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de l'État, il est le pouvoir des institutions. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 19 ans au Portugal? Nous avons deux pouvoirs. Nous avons les pouvoirs des commissions de travailleurs, qui en est comme ça, qui sont des 1000, 4000, 3500 dans tous les ponts. Ils ont une naissance de la commission des habitations, parce que les travailleurs, ils habitent, et quand ils retournent, l'État n'est pas là, la municipalité n'est pas là, donc ils construit son commission d'habitation qui fait les demandes. Des demandes sont des demandes comme les œufs propres, parce que les gens habitent beaucoup à bidonville et s'il n'est pas en bidonville, il n'a pas de services publics. Ils occupent des bourses pour faire une nouvelle route de bus. Donc il a beaucoup aujourd'hui à Lisbonne des bourses qui a une route qui s'est construite par les commissions d'habitation. Encore existe aujourd'hui. Ils ont occupé l'école, ils font l'école, fonctionnaires et toutes les élèves qui sont, parce que les élèves, la majorité peut seulement étudier 4 ou 6 ans, et ils sont faire les écoles pour que c'est l'enseignance obligatoire jusqu'à 9 ans, dessine jusqu'à 15-16 ans. Ils ont décidé en commission de gestion de l'hôpital que le service devient retourné gratuit. Et plus tard, ils ont occupé et contrôlé la banque. Ça, c'est très important en Suisse, non? Ça, c'est une idée fabuleuse. Les travailleurs ont occupé les banques et dire le flux de capital c'est contrôlé par nous parce que vous êtes décapitalisés des pays, ont laissé, ça c'est le contrôle ouvrier et plus important que autre gestion, je vais faire ce débat parce que normalement il y a une simplification de ce concept, il y a vraiment contrôle ouvrier, que c'est pas autogestion, les gens devenus patrons de lui-même, mais il impose à le patron, par exemple, le salaire. Le salaire est défini par le travailleur. Ça, c'est dans les grandes entreprises. Et ça, c'est, ma opinion, le cours de la révolution portugaise. Ça, c'est le chantier naval, les métallurgies, les chimiques, secteurs. Ça, c'est le cours de la révolution. Ça, c'est une révolution totale parce que les médecins, les enseignants, les travailleurs industriels, ils sont tous ensemble, les hommes et les femmes sont tous ensemble. Mais le cours de la révolution, c'est la grande production métallurgique industrielle qui a imposé le contrôle ouvrier dans cette emprise. Et ça, ça a déstabilisé totalement l'État, a déstabilisé le mouvement de force armée qui s'est divisé pendant ce process. Et finalement, comme vous, je pense que vous connaissez, les révolutions et des routades, comme on dit, ça finit avec un coup d'État contre-révolutionnaire au 25 novembre. Et cette coupe d'État est organisée par le Parti socialiste avec l'Église, avec le parti de droite et avec l'argent de l'SPD allemand. Maintenant, parce que les archives de la Fondation Friedrich Ebert ont été ouvertes, on sait que la plus grande quantité de l'argent que l'SPD a donné à sa vie, c'est pour le Parti socialiste portugais pendant. Donc, l'idée, c'est que tu peux faire une contre-révolution civile. Parce qu'est-ce que nous avons à Chili? Une contre-révolution militaire, ce n'est pas possible au Portugal parce que les militaires sont contre l'État au Divier. Donc, l'idée, c'est faire une contre-révolution démocratique. C'est quelque chose un petit peu comme en France en 1945. L'État social fonctionne comme contre la révolution. C'est très curieux de dire ça parce que maintenant l'État social, c'est quelque chose de révolutionnaire quand on regarde les néolibéralismes. Mais la majorité de la révolution portugaise, ils ont apprisonné les officiers révolutionnaires en 25 de novembre, mais ils ont vraiment détruit la révolution avec l'état social, les droits légalisés, ça c'est qu'est-ce que la contention, la révolution. Donc c'est, je veux dire, comme ça, c'est une défaite pour les travailleurs. Mais la bourgeoisie portugaise, c'est pas une victoire total pour la bourgeoisie portugaise parce qu'ils sont obligés à faire de réformes sociales, grandes réformes sociales pour finir la révolution portugaise. Donc c'est une demi-défaite ou une demi-victoire, on dit comme ça. Et je pense que ça c'est la raison pourquoi nous pas tout le monde connaît la révolution chilienne et il a La révolution portugaise, c'est pas connu ou débattu parce que le Chili, c'est un exemple pour parler maintenant avec la classe ouvrière dans le monde. Si tu fais une révolution, qu'est-ce qui s'est passé? Une Golpe comme le Pinochet, c'est une contre-révolution dramatique. Mais si on fait l'exemple de la révolution portugaise, c'est une autre, c'est une demi-victoire. La révolution. Vous comprenez mon idée? L'idée est qu'il y a une combat pour la mémoire du processus révolutionnaire. Et par exemple, quand les travailleurs luttent, ils se révoltent, on peut pas maintenant parler de révolution, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au Chili à ce moment, mais je ne sais pas, c'est une révolution, c'est une révolte, je ne sais pas maintenant pour dire ça, mais il a une idée tous les jours de dire à le travailleur que quand il se move, quand il lutte, quand il fait des protestes, des révolutions, la solution, la fin de la révolution, c'est quelque chose comme Pinochet à Chili ou les contre-révolutions depuis les Arabes comme Kadhafi, etc., etc. Donc, l'idée est que c'est très mal de vivre en néolibéralisme, mais si tu faire une révolution, il peut devenir une catastrophe. Et cette débat de la mémoire ne peut pas utiliser les moments des révolutions qui sont le contraire des chaos et des bloody counter-revolutions. Ce sont des moments. Donc, je m'explique. Pendant la révolution portugaise, c'est nous et tout de la révolution portugaise, qu'est-ce qu'on regarde? Que les gens ont construit un nouvel pays. Ce n'est pas le chaos, c'est le contraire du chaos. Le chaos, c'est la dictature. Donc, dans 19 ans, ils ont construit qu'est-ce que la dictature, pendant 50 années, peut construire par un service de santé, un service d'école, un service de transport public, une démocratie, une vraie démocratie. Donc, les gens peuvent parler, peuvent voter, peuvent décider, peuvent éleger son représentant dans les commissions. Donc, ils ont construit des théâtres. C'est pas seulement les problèmes de salaire. C'est quelque chose qui est connecté avec le mode de vie. Les gens ont transformé. C'est, par exemple, les gens ont occupé des maisons pour faire du théâtre pour tout le monde. Mais pas seulement pour assister au théâtre. Pour faire le théâtre. L'idée de que culture, on ne peut pas séparer les producteurs des les consommateurs des cultures. C'est toutes les mêmes choses. Ils ont fait un système de crèche pour les enfants. Ils ont fait un système de saignement.
Assainissement.
Parce qu'il y a du choléra au Portugal en 1974 à Lisbonne. Il a choléra parce qu'il n'y a pas de les œufs propres pour tout ça a été construit par les travailleurs. C'est le contraire des causes. Donc l'idée maintenant c'est tout le moment de dire on a besoin de la stabilité du capital parce que l'alternative c'est le fascisme, l'extrême droite. Et ils ont peu pas imaginé que l'alternative, c'est une révolution sociale. Donc, le meilleur de chacun, venir 26 mains. Comment on dit ça?
Qui prend le dessus.
Parce que dans une révolution... Nous avons une vision morale de la politique et de l'histoire. Les gens, ils sont. Et là, j'ai des gens terribles et des gens très, très bons. Mais ça, c'est exceptionnel. La majorité des gens sont les circonstances sociales. Donc, pendant une révolution, les gens devenir le meilleur de chacun. Pour les sociétés. Vous comprenez qu'est-ce que je dis? Ça, c'est qu'est-ce qui a passé pendant la Révolution portugaise. Et nous avons fait quelque chose que ça, c'est impossible. Par exemple, le système national de santé portugaise, maintenant, non, depuis la Troïka et la crise, mais pendant 20 années de gestion et construction démocratique par les médecins et les infirmières, surtout par les médecins, il est devenu le 12 plus meilleur du monde, second la Organisation mondiale de santé.
Second ou 12?
12, 12.
Deuxième.
Douzième.
Douzième. Ça, c'est impossible de faire avec... sans la participation massive des travailleurs. Et quand je dis, je n'avais pas le temps, on fait ça dans le débat, mais quand je dis la participation des médecins, c'est un petit peu abstrait. Non, c'est que les gens, ils sont là dans l'hôpital 24 heures, tous les jours, pendant la Révolution portugaise. Il n'y a pas de contrôle pour entrer dans le travail, mais les gens sont allés au travail 24 heures. Chaque jour, parce qu'ils sont amoureuses de construire quelque chose qui ils peuvent pas. C'est seulement un process de travail régulier, donc tu penses pas qu'est-ce que tu fais parce qu'il y a quelqu'un très intelligent qui pense une gestion, une administrative, etc. Cet moment de la révolution portugaise, non. Les gens décident dans la commission de gestion, dans la commission de travailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et le faire avec une motivation que c'est seulement possible pendant le process révolutionnaire collectif massif. Qu'est-ce que vaut? Il y a aussi, je dis un autre exemple très intéressant et je finis parce que nous avons besoin de débattre. C'est déjà beaucoup, non? Pardon.
Ça va,
c'est à
ça
cause
va.
De cette langue que j'ai créée maintenant. C'est le baker. On dit baker? Baker, bakers.
Boulanger.
Boulanger. Les boulangers, je peux dire milliards d'exemples, vous pouvez lire dans le livre ça. Mais le bon Langer, il fait une démonstration, une proteste, et l'affiche, c'est « Nous voulons dormir avec notre femme ». Ça, c'est la demande. Parce qu'il veut pas, il veut faire de l'amour, il veut pas travailler pour la nuit, vous comprenez, ça c'est quelque chose vraiment supérieur. Parce que maintenant, les gens au Portugal, par exemple, je sais pas en Suisse, mais j'imagine que c'est comme ça, les gens, ils font des automobiles à la 4 de la matin. Les gens font de l'électronique à la midnight.
Minuit.
Les jeunes travaillent pour les nuits, pour faire des choses incroyables. Il faut qu'un médecin travaille pour les nuits, dans une socialiste société, vraiment. Mais les gens, ils travaillent dans le shopping au Portugal à la 10 de la nuit pour vendre plastique. Oh, des ça. Oh, qu'est-ce que tu fais à 10 de la nuit? Oh, j'ai acheté une veste. Ça, c'est ridicule, ça, c'est primitif. Vous comprenez, c'est quelque chose qui est, c'est incroyable qu'on vive comme ça. Et les gens au Portugal ont questionné ça en 1974 et 75. Ils disent non. Il faut, c'est pas seulement une question de salaire, c'est une question de mode de vie. Il faut qu'on change le mode de vie. Ça, c'est pourquoi je pense que l'idée, c'est quand on change le pays, on change. Quand on change, on change le pays. Comprendre, si on il fait pas, on change parce qu'on fait la yoga tous les matins et on fait la charité, etc. On change quand on change la société dont on habite. Ça, c'est quelque chose vraiment important et qu'on peut apprendre avec la révolution portugaise, parce que c'est pas quelque chose. Retarde, curieusement, c'est profondément retard des pays, mais la révolution, c'est profondément moderne. Paul Suisse a dit que c'est la première révolution du 20e siècle. Pourquoi? Parce que c'est une révolution avec des, tout ensemble. C'est une classe universelle. À 9 millions de personnes au Portugal, 1 million et demi sont allés à d'autres pays. Il a 9 millions en 1964. 3 millions sont dans la commission de travailleurs, de gestion des grèves et des protestes. Ça, c'est un exemple d'histoire qu'il faut qu'on étudie avec grand détail pour comprendre le monde maintenant, mais surtout pour transformer le monde maintenant. Merci beaucoup. Excusez-moi, mon Francis, c'est terrible.